et Marche sont attendus quai numéro 5.
Top départ, le rendez-vous jeunesse en mouvement qui te donne les clés du voyage.
Pose cette valise. Chouette à l'espaletta.
Ne t'inquiète pas, il n'y aura aucun problème.
Merci de votre attention.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Top Départ, l'émission qui vous donne les clés du voyage pour réaliser vos rêves de départ à l'étranger par Karina et Eulalie. Bonjour Eulalie.
Bonjour Karina. Alors une fois par mois, on écarte les murs autour de vous pour vous faire voyager, faire intervenir des jeunes étudiants ou travailleurs partis de France pour explorer le monde.
Et ce mois-ci, on vous propose de partir un peu vers l'Est, direction l'Europe centrale et l'Europe de l'Est.
Alors, c'est une grande zone géographique, donc on a réuni 4 voyageurs et voyageuses autour de la table et par visio. Alors, à la table, on a donc Charlie qui est parti en Pologne, entre autres, avec Roman International. Bonjour Charlie.
Bonjour.
Par audio, on a Étienne qui a participé à des chantiers internationaux de jeunes bénévoles en République tchèque avec Jeunesse et Reconstruction et qui a aussi étudié 8 mois en Slovaquie. Bonjour Étienne.
Bonsoir.
Et on a Camille, aussi en audio, qui est partie en Roumanie réaliser son propre projet avec l'aide financière de la CAF. Bonjour Camille.
Bonjour.
Et enfin Andrei, notre expert Europe centrale. Il est lycéen en République tchèque et en ce moment, il est en échange au lycée Gabriel Faure à Tournon.
Bonjour.
Bonjour Andrei. Alors, comment on dit « c'est parti » en tchèque ?
Demnato.
Benato. Et André qui est accompagné par Marie-Catherine du lycée Gabriel Faure.
Bonjour. Bonjour.
Cette émission est donc une coproduction Europe Direct Drôme Ardèche, Radio BLV, Valence Roumois Aglo, la CAF et la DDCS Drôme.
Et je rappelle à nos jeunes auditrices et à nos jeunes auditeurs que si vous avez des questions pour nous inviter, vous pouvez nous appeler en direct et interagir avec nous. Notre numéro c'est le 04 75 83 00 81. 04 75 83 00 81.
Et pour commencer, alors Charlie, Audrey, Étienne, Camille, on va écouter vos parcours. Et pour commencer, Camille, tu es partie avec l'aide du programme Innov Jeunes de la CAF. On te propose d'écouter d'abord, avant de te donner la parole, une description de ce projet Innov Jeunes par Frédéric Dupuis.
Frédéric Dupuis, je suis référent thématique jeunesse à la CAF de la Drôme. On a un dispositif qui s'appelle l'aide Innov Jeunes, qui est dédié aux 11-25 ans, qui permet de soutenir des projets, quelle que soit leur nature, portés par des jeunes. Alors, projets tournés vers l'autre, hein, on ne peut pas financer de projets personnels. Et du coup, on peut financer aussi bien des projets qui se déroulent sur place, en France, dans la Drôme, que des projets qui ont un lien avec un départ à l'étranger. Donc, il nous arrive très, très fréquemment de soutenir des projets de solidarité internationale, que ce soit en Afrique, ça peut être en Asie, voire parfois en Amérique latine, et aussi beaucoup d'échanges culturels où il n'y a pas forcément de volonté d'aider, mais c'est plus s'enrichir de la culture, de découvrir une autre culture. Donc ce qu'on demande, c'est qu'il y ait notamment tout un travail de restitution au retour pour faire découvrir la culture, le pays, les problématiques, les enjeux qu'ils ont pu rencontrer lors de leur séjour. J'ai en tête, par exemple, deux jeunes qui étaient partis en Mongolie avec une marionnette et qui faisaient des spectacles de rue en Mongolie, mais qui, les aventures de la marionnette, elles étaient suivies par plusieurs écoles en France tout au long de leur périple en Mongolie. Donc ça peut être aussi ce type de retour, soit ouvrir des blogs, des pages Facebook, et surtout, on a souvent créé des liens avec des établissements scolaires qui suivent et découvrent la culture du pays en même temps que les jeunes porteurs de projets. Il faut vraiment que le projet, le voyage, l'hébergement sur place, la restauration sur place, ça soit imaginé, conçu, organisé par les jeunes, mais aussi qu'ils mènent par eux-mêmes des actions d'autofinancement. Alors, on a beaucoup de jeunes qui vont aller vendre des brioches, emballer des paquets cadeaux, etc. Donc, il y a un dossier à télécharger sur le caf.fr, donc toujours en le cherchant via votre moteur de recherche préféré. Éventuellement, se faire accompagner par une structure MJC, centre social à côté de chez soi. Rencontrer le conseiller en action sociale de son territoire. Donc, on a une dizaine de conseillers. Et Une fois qu'on a rencontré le conseiller de son territoire, une fois qu'on a renseigné le dossier qu'on a envoyé à la CAF, on est invité à le présenter devant un jury. Les jeunes vont avoir trois adultes en face d'eux qui ne sont pas là pour manger les jeunes. Et une fois passé ce jury, les membres du jury décident de l'aide ou pas, mais c'est très rare qu'on ne finance pas. Et après, les jeunes peuvent partir. Alors après, si les trésoreries sont plus fragiles, on peut donner un acompte de 70% de l'aide qu'on attribue, sachant qu'en moyenne, on accorde des aides autour de 2000 euros. Mais que justement, pour des projets à l'étranger, avec beaucoup de jeunes, et où du coup, il y a beaucoup de frais de transport, avion, bateau, que sais-je, ça arrive assez régulièrement qu'on aille au-delà des 2000 euros. N'hésitez pas à nous solliciter et à solliciter les points ressources accompagnement projet de jeunes dont vous trouverez les coordonnées aussi sur Internet.
Alors Camille, ça c'est la théorie présentée par Frédéric. Et dans la pratique, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi être partie? Où ça? Quand? Comment? Comment ça s'est organisé pour toi?
Alors je suis partie en 2014, je suis partie en Roumanie. Donc, on a mis 2 ans à créer ce projet. On est 7 à être partis. On était 5 monteurs de projet. On a été accompagnés par une structure qui s'appelle Cité d'enfants et qui faisait de l'accompagnement de projet. Donc, en fait, on se connaissait d'avant. On avait fait d'autres projets qui ont été faits en France. Et ensuite, on a décidé de voir plus grand et de partir à l'étranger. Donc on a monté ce projet de partir en Roumanie pour aller animer des ateliers de cirque et d'art plastique pour des enfants sur place, et en même temps découvrir la culture en Roumanie. Notamment, on voulait faire une exposition photo, donc on est aussi revenu avec une exposition photo qu'on a partagée auprès des différents publics. On a fait l'exposition photo notamment dans notre lycée et à d'autres endroits dans notre ville. Voilà, donc on est parti 3 semaines et c'était super.
On rentrera dans le détail juste après, comme ça on laisse le temps à chacun de se présenter.
Ok.
Alors maintenant, on va avoir donc le parcours de Charlie, donc qui est parti effectivement en Pologne avec Roman International. Mais juste avant, on va avoir des explications de Anne de Reckner, directrice de Roman International, qui va nous présenter le CES, donc le Corps européen de solidarité, qui est comme le service civique, mais dans les pays européens, du pourtour méditerranéen et du Caucase.
On accompagne une centaine de jeunes par an à l'envoi ou à l'accueil, puisque effectivement, pour partir en volontariat sur le programme Erasmus+, il faut être absolument accompagné par une structure d'envoi qui permet de se préparer au départ. Donc l'idée, c'est que ça soit une expérience réussie. Et justement, la structure d'envoi va aider le jeune à trouver un projet qui soit accessible, qui le mette en situation de réussite et qui soit une expérience valorisante pour lui dans le cadre de son projet de vie ou de son insertion socio-professionnelle. Avant de préparer les jeunes au départ, j'allais dire qu'on les aide aussi à trouver un projet. Il y a une plateforme qui existe et qui recense tous les projets financés par l'Union européenne, mais c'est une plateforme qui est quand même très indigeste et qui décourage, j'ai envie de dire, 99,99% des gens qui se mettent en face. L'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse vivre cette expérience. Donc il y a une prise en charge financière qui est complète de la part de l'Europe, qui fait qu'on n'a pas besoin d'être riche pour partir en mobilité internationale, on n'a pas besoin d'être premier de la classe ou d'être qualifié. On peut toujours trouver une mission qui nous corresponde. Donc ça peut être parce que tout simplement on est dans un moment de sa vie où on ne sait pas trop quoi faire et qu'on a besoin de vivre quelque chose de différent et qui va nous donner un petit coup de pompe à vélo, qui va nous redonner de l'estime de soi, qui va nous redonner confiance et qui va être un tremplin pour autre chose. Ça peut être parce qu'on a fini ses études et qu'on a envie effectivement de s'essayer pour en profiter, de découvrir un pays, une culture, une autre façon de pratiquer un métier. ou on peut aussi avoir une qualification dans un domaine et puis avoir envie de faire un volontariat dans tout autre chose. Puisqu'il y a des milliers et des milliers de missions différentes qui existent. Un volontariat Corps européen de solidarité, c'est toujours sur un projet d'intérêt général. Mais à l'intérieur de ça, on peut à la fois veiller à la reproduction des tortues sur les plages de Grèce, comme on peut travailler dans une radio comme la vôtre, comme on peut s'impliquer voilà, sur des écoles maternelles, sur des écoles alternatives.
Oui, c'est très vaste. Oui.
C'est très, très vaste.
Alors, Charlie, je te voyais sourire quand on parlait de la plateforme un petit peu indigeste du CES. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette plateforme et de manière générale, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir à partir avec le Corps européen de solidarité et Romand International en Pologne ?
Alors, du coup, je vais déjà commencer par dire que j'ai découvert le SEE en fait par une prof il y a déjà plus de 10 ans. Et j'ai mis très longtemps avant de le faire, mais à chaque fois, je me disais, je vais le faire l'année prochaine, quelque chose comme ça. Et à l'époque, quand j'avais commencé à me renseigner, la plateforme en question était encore bien pire. parce que chaque chargement de page prenait environ 1 minute. Il fallait vraiment une patience, un courage, une détermination impressionnante. Elle s'est en fait grandement améliorée pendant ce temps-là, au moins sur ce qui est de la vitesse. Et du coup, ce qui m'a donné envie de partir, justement, quand j'ai découvert que ça existait par cette proche, je me suis dit, c'est génial. Et à chaque fois, j'arrêtais pas de me dire, je vais le faire. Et puis je disais aux gens autour de moi, ouais, je vais le faire bientôt. Et puis le temps a passé et en fait, je l'ai fait à la limite d'âge vers le haut, mais vraiment juste. Et du coup, j'étais vachement intéressé par tous les pays qui étaient à l'est de la France, de l'Italie au maximum, on va dire. Et du coup, je me suis dit, tiens, si j'ai l'occasion. En cherchant quelques projets, je suis tombé sur celui-là à Cracovie qui me plaisait et je suis parti là-dessus.
D'accord, donc la destination a été induite parce que ce projet-là te plaisait et qu'il se trouve qu'il était en Pologne.
C'est ça. Et puis la ville aussi et puis le groupe de volontaires parce qu'il y avait un énorme avantage. Enfin, c'était un des aspects les plus chouettes. C'était, comme on dit, on découvre à la fois le pays mais aussi tous les autres gens qu'on rencontre dans le pays qui ne sont pas aussi du pays. Et le groupe de volontaires était assez grand. Dans mon cas, il y a 35 volontaires de 16 pays différents. Donc c'était vraiment une super expérience et cet aspect-là aussi, ça comptait pour moi. Quoi.
Ça a l'air chouette tout ça. Alors on va passer à Étienne maintenant. Étienne, tu es donc parti en chantier international de jeunes bénévoles en République tchèque et en Allemagne avec Jeunesse et Reconstruction. Alors c'est le dernier extrait sonore qu'on va écouter. C'est Leslie Fardin, déléguée régionale Rhône-Alpes de Jeunesse et Reconstruction, qui raconte un peu comment ça se passe. Et puis ensuite, on te demandera, toi, dans la pratique, ce que tu as fait.
On organise des chantiers de jeunes bénévoles internationaux durant la période estivale. Ce sont des chantiers qui permettent de réaliser une action d'intérêt général qui touche à la fois le patrimoine, ça peut être restaurer du patrimoine, que ce soit des chapelles, des lavoirs, ce genre de choses, mais aussi qui peuvent avoir des vocations environnementales avec la protection des espaces et des espaces naturels et des espèces, mais aussi l'ouverture de sentiers, l'aménagement de jardins partagés. Et enfin, une catégorie qui est un peu plus rare, mais qui touche principalement la culture et le social. Et donc, l'idée, c'est que les bénévoles travaillent le matin, à raison de 5 heures par jour à peu près, du lundi au vendredi. Et le reste de la journée, ils vont avoir des activités de découverte du patrimoine, du terroir et de la culture locale. Donc, c'est vraiment des actions qui se déroulent de juin à septembre et qui durent 2 à 3 semaines, et ce, en France, mais aussi dans l'Europe et dans le monde. En Europe de l'Est, on en a. On travaille beaucoup avec l'Ukraine, notamment, la Roumanie ou encore l'Estonie, et aussi sur des périodes un peu plus longues, de 1 à 3 mois ou de 3 mois à 1 an. Les chantiers sont toujours organisés en partenariat avec les communes locales qui vont accueillir les jeunes. Donc il y a un hébergement qui est soit sous tente, soit en dur selon la disponibilité de la commune. Et il y a un budget alimentation qui est alloué au groupe et qui permet au groupe du coup de se faire à manger et de pouvoir cuisiner ensemble. Il faut savoir qu'un groupe se constitue de 7 à 15 jeunes et qu'il y a environ 2 personnes de la même nationalité maximum pour permettre vraiment un brassage culturel. Et pour ce qui est de la participation financière, les chantiers sont effectivement payants. De 18 à 30 ans à peu près, il y a 150 € de frais d'inscription et 15 € d'adhésion. pour les projets en France et pour les projets à l'étranger, donc notamment l'Europe de l'Est. Il arrive qu'il faille rajouter des frais supplémentaires qui sont pour le coup fixés par les pays en question. Donc ça permet aussi aux pays concernés de pouvoir garantir une qualité d'accueil. Et pour les mineurs, on est plutôt sur 50 euros d'adhésion et de frais d'inscription. Et pour avoir vraiment ce détail-là et des missions et des tarifs, il est possible de consulter l'ensemble des programmes à venir sur le site de l'association volontariat.org. Voilà, on est une association qui est à la fois apolitique et religieuse. Donc tout type de religion je pense notamment aux véganes, ce genre de choses, à des régimes, voilà. Tout ça, c'est respecté sur les chantiers. Donc ça permet aussi une vraie tolérance et d'essayer de comprendre l'autre et de respecter finalement ce qui fait la culture de chacun. Oui, sur les chantiers, la langue parlée, c'est l'anglais. Mais il ne faut pas avoir peur. Si vous ne vous sentez pas prêt, faites d'abord un chantier en France. Mettez-vous à l'aise et partez l'année d'après à un chantier à l'étranger. Moi, je ne savais pas que ça existait. Je pense que je l'aurais fait si j'avais pu avoir l'opportunité à la fac. Parce que c'est à la fois participer à une action qui nous dépasse un peu et en même temps rencontrer des gens extraordinaires.
On a écouté Leslie qui nous donne aussi envie de partir. Étienne, alors, même question pour toi. Donc, dans quel pays tu es parti, ça, on le sait. Mais peut-être pourquoi, où, comment, combien de temps?
Alors, j'ai entendu parler de Jeunesse et Reconstruction et de ces chantiers pendant l'été 2019. Donc, j'étais entre ma deuxième et ma troisième année à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. En fait, c'est ma belle-mère qui m'en a parlé parce qu'elle, quand elle était jeune, quand elle était étudiante, elle avait participé à plusieurs chantiers et ça lui avait beaucoup plu. Ça lui avait permis de progresser notamment en anglais et en allemand. Et elle avait vécu des aventures desquelles elle avait gardé un très bon souvenir. Donc, elle m'a vraiment motivé à faire ça. Et plus elle m'en raconte, plus elle m'en parlait, plus je me disais que ça pourrait être un bon moyen pour moi de lier expérience professionnelle, expérience humaine et vacances, tourisme, voyage à un prix abordable. Donc je me suis lancé, j'ai été sur le site de Jeunesse et Reconstruction que Leslie a évoqué, donc c'est volontariat.org. Ensuite, j'ai été dans la rubrique rechercher. Et puis, j'ai regardé un petit peu les chantiers qui correspondaient aux dates pendant lesquelles j'étais disponible pendant l'été. Et le premier chantier que j'ai fait, du coup, c'était en Allemagne. Ça durait 2 semaines, c'était dans un village en Allemagne de l'Est. On était un groupe d'une quinzaine de volontaires. Par contre, c'est vrai qu'il y avait, je ne dirais pas qu'il y avait 2 personnes par nationalité, parce qu'il y avait au moins 5 Italiens. Par contre, les 10 autres, c'était très divers. Amérique latine et Europe au sens large. Et voilà, et on était un groupe de 15 volontaires et on a restauré un château. Encore une fois, restauré au sens large parce que des fois, c'était pas vraiment touché au mur, c'était plutôt passer le balai dans les salles, tailler les haies, ramasser des débris, couper des arbres. Mais en fait, ce travail, c'était un prétexte à la rencontre interculturelle qui, là, pour le coup, m'a satisfait puisque... Quand je suis parti, je n'étais pas du tout sûr de moi, notamment concernant mes compétences linguistiques. Et je suis revenu en pouvant dire « je parle anglais, quoi, je suis bilingue ». Et ça m'a tellement plu que c'était l'été 2020, cet été, malgré la situation sanitaire, on se souvient que ça s'était un petit peu assoupli pendant les vacances d'été, j'ai décidé de remettre le couvert. Je suis retourné sur volontariat.org. Et cette fois-ci, j'ai cherché un peu plus précisément. Je voulais avoir un chantier en Europe centrale et orientale parce que je venais de passer une année Erasmus en Slovaquie qui m'avait beaucoup plu. Ça faisait déjà 2-3 ans que j'apprenais le russe. Donc, je me disais, je vais me spécialiser un petit peu sur cette partie slave de l'Europe que j'aimais sincèrement en plus. Et cette fois-ci, ça a duré une semaine et c'était en Moravie du Sud, dans le sud de la Tchéquie. On était beaucoup moins, on était 7, si je me souviens bien, dont beaucoup de Tchèques, dont beaucoup de Tchèques et de Polonais. Mais j'ai retrouvé quand même cette ambiance que j'avais appréciée en Allemagne. Donc j'étais tout aussi content. Le projet était peut-être un peu plus intéressant, avait peut-être plus de sens pour moi, parce que cette fois-ci, on a d'abord rénové une bâtisse historique qui devait être transformée en bibliothèque. Et dans la deuxième partie du chantier, on a déblayé, on a remis en ordre un cimetière allemand de Moravie du Sud. Il n'y a plus beaucoup de cimetières allemands en bon état en Moravie parce que les Allemands ont été chassés de cette partie de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Et on peut vraiment voir la différence entre le avant et le après, parce qu'il était complètement laissé à l'abandon. Il y avait des arbres qui poussaient près des pierres tombales. Et nous, on a fait tout ce travail de jardinage, on peut dire. Et on a vraiment pu voir la différence. Et on s'est dit tous ensemble, le groupe, que si un Allemand revenait voir la tombe de son ancêtre ici en Tchéquie, bah, il y trouverait un cimetière entretenu. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire pour le moment.
C'est pas mal comme introduction, effectivement.
Alors, on a entendu donc une Française et deux Français parler de leur expérience à l'étranger. Et maintenant, on va écouter donc André, qui lui a fait le chemin inverse, qui est venu depuis la Tchéquie, en France. Donc André, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Enfin, depuis quand tu es en France? Pourquoi tu as décidé de venir en France étudier dans un lycée français?
J'ai décidé d'aller en France parce que en Tchéquie, je suis élève au lycée bilingue franco-tchèque. J'ai 5 matières en français et première 2 ans au lycée, on avait 10 cours de français par semaine. Et j'ai décidé d'aller en France parce que dans mon lycée, il y a le projet qui s'appelle Un an en France. Et moi et avec moi, mes 13 amis, on a décidé qu'on peut essayer parce qu'on adore la France. Parce qu'on a été là 2 fois. Première fois, j'étais à Strasbourg, j'ai visité le Parlement européen. Et après, c'était l'échange scolaire. Et j'étais en puits à Nivelles, c'est pas longue distance de Valence et de Tournon. Et j'aime beaucoup ces régions et j'ai voulu améliorer mon français, j'ai voulu découvrir la France, la culture française, rencontrer de nouveaux amis. Et c'est pour ça pourquoi j'ai voulu aller en France et parce que je pense que c'est une très bonne expérience pour moi. Et à cause du Covid, j'ai pu aller un peu plus tard, mais au début, c'était un peu difficile pour moi, mais moi, que j'ai espéré. Mais je pense que j'ai bien adapté, j'ai rencontré de nouveaux amis. Et il y a beaucoup de différences entre le lycée tchèque et entre le lycée français. Par exemple, en lycée tchèque, vous n'avez pas les spécialités de matière. Par exemple, moi, je dois avoir la chimie, la physique, le maths au fin de lycée. C'est ça.
Donc tu découvres les différences culturelles. Et André, c'est toi qui as choisi les musiques de cette émission?
Oui, c'est moi qui ai choisi.
On va écouter la première que tu as choisie. Alors, comment ça se prononce? Nicolas Joseph,
oui. C'est ça.
Colorado. Pourquoi tu as choisi cette musique?
Parce que... franchement, je n'écoute pas beaucoup de la musique tchèque, mais c'est l'interprète qui est très connu chez nous et un peu étranger parce qu'il chante en anglais, en espagnol. Et, par exemple, l'un de mes amis français lui connaît.
Allez, on écoute la star de la République tchèque. Merci. What if you run away with me? You know the world is ours to see. Tell me your wildest fantasies. Yeah, and come and run away with me. So let's get drunk in Colorado, taking shots out of the bottle, just dancing on the tables, young and free, young and free. Feeling like we hit the lotto, living life without tomorrow's, breaking rules and doing things we shouldn't be. I feel like, hey mama, let's hit that road, mama. We don't need no money, no, you're all that I need. So what you say mama, let's set this bed on fire. I just got you and you just got me.
these are mine. Oh, yeah, 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 yeah. We don't need a plane to fly. No, no, no. We already up so high. We already high. Here with your body next to mine. So let's get drunk in Colorado. Taking shots out of the bottle. Just dancing on the tables. Young and free. Feeling like we hit the lotto, living life without tomorrow's, breaking rules and doing things we shouldn't be. I feel like, hey mama, hey mama, let's hit that road, mama. We don't need no money, no, you're all that I need. So what you say mama, let's set this bed on fire. I just got through and you just got to me.
C'était donc Nicolas Joseph, c'est comme ça qu'on dit, André ?
Nicolas Joseph.
Merci beaucoup. Je vous propose maintenant d'écouter, en fait, Slavomir, qui est un jeune de République tchèque, est venu enregistrer à la radio des extraits sur sa culture. Et donc, je vous propose de commencer par le premier extrait culturel, juste après ça.
Il paraît que c'est typique.
On écoute Slavomir.
Déjà, on mange très vite. Un repas de famille en Tchéquie, c'est plié en 30 minutes. Voilà, bisous, au revoir. C'est vrai que là encore, quand je mange avec mes amis français, souvent je finis en premier. On ne s'embête pas à faire des entrées, des desserts, fromage. C'est souvent soupe, plat principal, fini. Bon, après, la bise, c'est une habitude qui est facile à assimiler. Mais bon, c'est vrai qu'au début, ça peut paraître bizarre ou on trouve ça au contraire sympathique, chaleureux. Donc oui, voilà. Quand j'ai fait des voyages, à Budapest, à Prague, avec mes amis français, souvent, ouais, ils trouvaient des gens froids, distants, désagréables. Mais parfois, c'est leur façon de faire, de parler. Et voilà, donc ça peut créer de l'incompréhension, mais... Il n'y a pas toujours de la mauvaise intention, je dirais.
Ouais, première différence culturelle, on va en parler tout à l'heure un peu de comment c'était sur place pour ceux qui sont partis. Mais pour commencer, la préparation, comment est-ce qu'on se prépare pour un voyage comme ça ? Comment on se prépare particulièrement pour les pays d'Europe centrale ou de l'Est ? Et déjà, pour commencer, où est-ce que c'est l'Europe centrale et de l'Est ? C'est quoi comme pays alors ? Tout le monde se regarde. André.
Il y a la différence que l'Europe centrale est plus beau, à mon avis, que l'Europe d'Est. Par exemple, on a été ensemble un pays avec la Slovaquie, mais la Slovaquie est aussi l'Europe centrale, mais un peu c'est plus de l'Est culturellement. Et la Tchèque, on a été par influence allemande, respectivement autrichien. Et on a beaucoup de chance ensemble avec les Allemands, avec les Autrichiens. Et oui, les Tchèques mangent beaucoup plus vite que les Français. Je pense pour les Français, le repas, la nourriture, c'est la passion. Mais oui, on a les pauses pour le déjeuner beaucoup plus courtes. Et oui, pour vous, c'est le fromage très important. Par exemple, et pour nous, c'est pas quelque chose d'important.
Donc ça, c'est l'Europe centrale, ce que tu décris quand tu dis « nous ». Toi, c'est l'Europe centrale dont tu fais
partie. Oui, moi, je suis l'Europe centrale. Beaucoup de Français pensent que nous sommes l'Europe d'Est à cause du régime communiste. Mais géographiquement, c'est l'Europe centrale. Ouais.
À partir d'où c'est l'Est, alors ? À partir de quel pays c'est l'Europe de l'Est ?
Ça commence à l'Ukraine, Belarus et Roumanie. Par exemple, Pologne, Hongrie, Slovaquie, c'est toujours l'Europe centrale.
D'accord. Et donc, pour préparer son voyage, à quoi est-ce qu'il faut penser en particulier? Quelle démarche? Apprendre la langue, peut-être? Trouver un logement? Quel budget? J'ai plein de questions. Peut-être qu'on peut commencer, Charlie, par toi. Quoi. Est-ce que tu te souviens comment tu t'es préparé?
Oui. Alors moi, j'ai été préparé par Romain International, par rapport vraiment au SVE en tant que tel. Après, je me suis renseigné sur la culture polonaise. Je me suis un petit peu... Bon, voilà, j'étais curieux. Je me suis renseigné sur la ville, sur... Et c'était intéressant. Et puis, je me suis dit... En même temps, j'aimais bien l'idée d'être d'une part prêt, mais en même temps aussi de pas trop me... Enfin, de découvrir. Mmh. Et de pas trop me faire des idées préalables, plutôt de découvrir quelque chose et pas chercher, je sais pas, des choses qui seraient peut-être des clichés ou en tout cas l'expérience de quelqu'un d'autre. Je voulais pas forcément... Je me rappelle que c'était une des questions qu'on nous a demandé au tout départ. Quelles sont vos attentes? Et j'ai dit, je veux pas avoir d'attentes. Je veux juste vivre le truc sans avoir d'attentes. Parce que les attentes, c'est fait pour être... déçu ou autre, quelque chose comme ça. Enfin, je veux juste que l'expérience se produise et on verra bien, quoi. Et c'était vraiment... c'était super. Et honnêtement, enfin, moi, on sent, en effet, que c'est vraiment l'Europe centrale et pas l'Europe de l'Est. On sent que la culture est plus proche, enfin, qu'elle est un petit peu entre deux, on va dire. Et c'était marrant quand j'ai entendu l'extrait sur la bise, parce que c'est vrai que c'est un truc typiquement qu'on a en France et qu'il n'y a pas tant que d'autres pays que ça, j'ai l'impression qu'ils le font et en général les gens sont surpris. La seule personne que j'ai rencontrée en Pologne qui faisait la bise, c'était une fille qui justement a passé du temps en France en fait. Donc elle la faisait parce qu'elle avait pris l'habitude en France, mais c'est tout quoi. Sinon c'était vraiment pas du tout. C'était assez. Mais par contre, j'ai pas du tout. Enfin, j'ai eu vraiment l'expérience de gens extrêmement chaleureux la plupart du temps. C'est juste que ils font pas des choses comme ça quoi. Il y a pas d'effusion. On va dire physique, mais ils étaient très, très chaleureux. Et puis, ils avaient vraiment des phases. Genre, je suis au travail, alors je suis comme ça. Et puis après, je suis plus au travail. Alors, c'était très, très rigolo à voir les réactions comme ça. Voilà.
Donc, Romain International a préparé pas mal de choses pour toi,
ouais,
au final. Bah,
c'est-à-dire que, alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, en fait, un premier SVE avant, un court terme au Maroc, en juillet, avant de partir en octobre 2019, donc en Pologne. Et en fait, j'ai été préparé une première fois pour le Maroc. Et puis, ça sert vraiment en plus de première expérience. C'est plus court, mais pour le coup, le choc culturel est plus important. Alors, le Maroc, si on veut, c'est un petit peu tout en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il y a beaucoup de gens qui parlent français, mais c'est quand même un sacré choc culturel par ailleurs. Donc, c'est assez intéressant parce que c'est une grosse rupture, mais on arrive à peu près à se faire comprendre. Donc, c'est très, très intéressant aussi.
Du coup, une fois que tu avais vécu le Maroc, il y avait moi à préparer
pour l'Europe centrale. Plus, c'est ça, ouais. Et puis, nous, il y a une particularité aussi, c'est que j'ai rencontré plein de volontaires d'un peu partout en Pologne, enfin, qui étaient dans différentes villes ou différents endroits en Pologne. Mais nous, on était quand même dans une très grande ville où, en général, dans les grandes villes, les gens parlent très bien anglais. Mmh. En particulier, plus on est vers les centres-villes et les endroits très touristiques, et Cracovie est une ville très touristique, plus les gens parlent bien anglais. Mais par contre, c'est vrai que d'autres volontaires m'ont dit à la campagne, il faut parler polonais, personne ne parle une autre langue. Voilà.
Et donc, Charlie, effectivement, on a entendu, donc voilà, tu t'étais un peu renseigné, mais quand même pas trop, on part un peu sans trop se faire voilà, la surprise. Camille, toi, tu t'es préparé comment? En plus, c'était peut-être un peu différent, comme c'est quand même un projet que tu as dû, avec les autres de l'équipe, préparer. Voilà, est-ce que tu avais des attentes ou est-ce que plutôt comme Charlie, tu as préféré y aller et découvrir sans attente particulière?
Alors, nous, pour le coup, la préparation a été longue. On a mis donc 2 ans à préparer le projet et à le concrétiser.
Wow.
Et on est parti 3 semaines, donc la préparation était quand même beaucoup plus longue que le temps finalement que ça a duré. C'est vrai que nous, on a eu beaucoup de choses à faire, notamment sur la recherche d'aide à notre projet, donc notamment du coup avec la CAF, avec auprès de d'autres structures, on a cherché beaucoup d'argent pour pouvoir animer notre projet. On a monté beaucoup de dossiers qu'on est allé défendre auprès de jurys. Donc ça a pris très longtemps sur le montage de projet. Ensuite, en fait, nous on est parti en Roumanie parce que donc moi j'habite à Nyons. Et Nyons est lié avec une petite ville qui s'appelle Borca en Roumanie. Et donc, du coup, il y a une association sur Nyons qui s'appelle Nyons Borka. Et donc, on les a contactés. Et c'est eux qui nous ont mis en contact, en fait, avec les personnes qui habitaient donc, à Borka. Donc, grâce à eux, on les a rencontrés à plusieurs reprises. On a eu donc beaucoup d'échanges avec eux sur le pays, sur comment ça se passait. On voulait aussi, donc, nous apporter une part aussi au pays. On ne savait pas du tout comment c'était. Donc, on avait besoin de savoir comment c'était là-bas pour aussi pouvoir. Voilà, on voulait faire des activités, tout ça. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils avaient, comment on pouvait arriver, qu'est-ce qu'on devait dire, qu'est-ce qu'on ne devait pas dire pour pas. Enfin, pour pouvoir avoir des vrais liens avec les personnes qui étaient là-bas et pas se sentir comme des touristes ou des invités, quoi. On voulait vraiment vivre la vie avec eux, donc on avait besoin de se préparer comme ça. On a rencontré une personne, donc un Roumain qui habitait sur Nyons. On a passé une journée complète avec lui où on est allé, où il nous a appris plusieurs mots de Roumain. Notre projet s'appelait Bunaziwa, qui veut dire bonjour. Donc, on a vraiment partagé beaucoup de choses avec lui sur la culture, sur le langage, sur les façons d'être. Et ce que lui aussi, il avait ressenti en arrivant en France aussi. Donc, on était aussi préparés aux questions qu'ils allaient pouvoir nous poser, aux réactions qu'ils pouvaient avoir face à nous. On était vraiment préparés à arriver. On avait beaucoup d'attentes. Mais en même temps, il y avait aussi beaucoup d'inconnus parce que on avait juste parlé de comment ça allait être, mais en fait, ça ne s'est pas forcément déroulé exactement pareil. Et forcément, il y a des choses mieux, des choses moins bien. Mais au final, on ne peut pas s'imaginer vraiment ce que ça va être tant qu'on n'y est pas. Et c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus enrichissant que tout ce qu'on a pu nous dire avant, quoi. C'était complètement différent à ce niveau-là. Mais moi j'étais contente d'être bien préparée à ce niveau-là, et comme ça, quand on est arrivé, on a pu, enfin, vu qu'on n'avait que 3 semaines, c'est aussi rapide, donc pour pouvoir échanger, on a été en contact avec des jeunes, avec des enfants. Donc ce qui est compliqué, c'est la barrière de la langue. L'avantage avec les jeunes, c'est que eux ils apprenaient le français à l'école, donc on pouvait parler un peu français avec eux, on a pu parler anglais, mais avec les enfants c'était compliqué. Enfin, nous on parlait quasiment aucun mot de roumain, donc il y a eu pas mal d'échanges de personnes qui étaient là avec nous pour nous aider à traduire, et on a échangé avec les jeunes pour qu'ils puissent expliquer aux enfants et tout ça. Donc c'était très intéressant, très intense, très rapide. Donc c'est pour ça qu'on devait être aussi très préparé pour pouvoir vivre le projet à fond.
Fallait assurer tout de suite. Et Étienne, toi, j'imagine que c'était plus préparé aussi, comme tu es partie avec Jeunesse et Reconstruction.
Alors moi, effectivement, j'avais beaucoup moins à préparer parce que le projet était déjà monté, même le programme d'activité était en grande partie déjà défini. Après, j'ai quand même, c'était important pour moi d'apprendre les bases de la langue tchèque quand je suis parti en Tchéquie, donc des mots de base, bonjour, comment ça va, que j'ai oublié aujourd'hui, que je ne pourrais pas vous ressortir malheureusement, mais voilà, j'ai fait un petit peu cet effort parce qu'on est amené à communiquer avec les locaux pendant les chantiers internationaux. L'exemple qui me vient, c'est que quand on travaillait sur cette bâtisse destinée à être transformée en bibliothèque, il y avait toujours un groupe de 4 enfants tchèques, de peut-être 10 ans, qui venaient nous voir travailler et qui rigolaient avec nous, qui faisaient des blagues. Et voilà, et c'était marrant de pouvoir leur sortir quelques mots en tchèque, de les surprendre de cette façon-là. C'est pas forcément une bonne idée d'essayer de parler russe, ouais, parce que c'est pas toujours très bien vu. Et pareil, dire que la Tchéquie est un pays d'Europe de l'Est, ça aussi, c'est pas toujours
éviter.
Très bien vu. Plutôt Europe centrale. Europe centrale, ils aiment bien. Sinon, une autre façon de se préparer à un chantier international, c'est de réfléchir à sa propre culture et de savoir comment on peut la présenter aux étrangers qu'on va rencontrer. Moi, je me souviens que je m'étais demandé quelle chanson française j'aurais envie de leur montrer. Quelle recette française je vais faire le jour où je vais cuisiner, parce qu'il y a toujours 1 ou 2 jours de cuisine pour chaque volontaire. Finalement, moi qui ne mangeais que des plats tout faits, j'ai dû me forcer à apprendre une recette de quiche Lorraine et à la faire, et figurez-vous que c'était un franc succès. Donc des fois on se découvre des capacités. Et aussi il y a beaucoup de volontaires qui ramènent des jeux de chez eux, des friandises de chez eux, des boissons de chez eux. Donc oui, c'est important de se préparer à faire ce partage interculturel qui fait entièrement partie des chantiers de bénévoles internationaux.
Je pense que finalement, ce qu'on peut retenir de tous ces témoignages, c'est que finalement, il y a plusieurs dispositifs qui permettent de partir, et avec du coup des préparations très différentes. Et donc, en fonction de ce que les gens... voilà, si on est prêt à monter complètement son propre projet, comme Camille, eh ben, c'est possible. Et si notre, on veut qu'on, avoir une première expérience peut-être plus encadrée, effectivement, il y a d'autres dispositifs, comme les chantiers, où on est un peu plus encadré, et ce qui peut être le préalable après d'autres expériences à l'étranger.
Et en fonction de nos personnalités aussi, est-ce qu'on veut se garder la surprise comme Charlie, complètement voilà, découvrir, ou est-ce qu'on veut être un peu plus préparé? Les deux sont possibles. Alors André, on va écouter la deuxième musique que tu as choisie, et cette fois je te laisse dire le titre parce que c'est impossible pour moi. C'est Christophe l'artiste?
Il s'appelle Christophe.
Christophe.
C'est le groupe tchèque. Le genre est rock, un peu pop. Et sa chanson s'appelle Tak pojď hledat břeh.
On écoute.
Ty letíš, já utíkám. Chcem spolu, jsme každý sám. Kdo nás ochrání? Před námi. Naše víc je zítra nic, už jsme jak bílá těla svíc, co roztáli a už nepálí. Místo kroku vždycky přijde rovnou skok. Chceme refrény, chcem písně bez slov. A než nám dojde dech, s jedinou vteřinou se prolne století. Když ji nechytnem, tak navždy odletí. We'll be right back.
c'était Christophe. André.
Oui, Christophe, Christophe.
Et le titre?
Le titre, Tak pojďme do břeh.
Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est l'heure d'écouter quelque chose sur la nourriture.
Où sont les poulards? J'ai faim.
On écoute à nouveau Slavomir, mais cette fois-ci, il parle d'une recette qu'il aime particulièrement.
C'est un plat plus slovaque, polonais et même russe. Alors ça s'appelle pirohi en slovaque, ça s'appelle pierogi en polonais. Et c'est, en fait, ça ressemble aux raviolis. Et il y a différentes sortes. Vous avez des raviolis donc salés, avec fourrés donc aux pommes de terre ou au fromage. Et ensuite, vous mettez de la crème par-dessus avec de l'aneth ou de la ciboulette. Vous avez des pirohi à la viande. Et vous avez aussi une version sucrée. Voilà, avec de la confiture, du fromage frais, du pavot, du Nutella. Voilà, c'est très sympa. Et puis, il y en a aussi des frits, voilà, qui sont un peu plus croustillants. Donc, c'est une pâte à pâte, finalement. Enfin, farine, œufs, un peu d'eau. Et voilà, vous formez une pâte. Et puis, vous faites des petits raviolis que vous faites cuire à l'eau pendant 4-5 minutes. Voilà, et vous mangez ça. Et c'est très, très bon.
Voilà, la culture, c'est aussi la nourriture. Alors, il nous reste peu de temps, il nous reste 13 minutes pour parler de comment c'était sur place. Peut-être chacun son tour, si vous pouvez raconter un peu globalement comment ça s'est passé, qu'est-ce qui était imprévu, peut-être un bon souvenir ou une journée type pour nous donner un petit peu une impression du voyage. Voilà, ça serait parfait. Et on va commencer par toi, Charlie.
Ok. Alors, oh là là, il y a beaucoup de choses à dire. c'était extraordinairement chargé. Il y avait une quantité hallucinante de bons souvenirs avec les autres volontaires. Dans mon cas, il y a une particularité. Donc, juste une petite chose. Donc, moi, c'est un volontariat. On était une grande partie du groupe. On travaillait dans des écoles maternelles. Donc, d'accord. C'était mon cas. Il y avait quelques autres projets, mais c'était la plupart des volontaires faisaient ça. Et donc, nous, ça a été forcément assez changé par l'arrivée du Covid, et pendant toute la dernière partie en fait de notre volontariat, on n'a pas pu travailler à l'école, donc on pouvait faire des choses, envoyer des vidéos, des choses comme ça, des idées de choses aux professeurs avec qui on travaillait. Mais du coup, dans mon cas, c'était, alors aussi bizarre que ça puisse paraître, le Covid n'a pas été une mauvaise expérience, mais plutôt une bonne expérience, parce que du coup on était tous en colocation, parce que Cracovie est une ville assez chère au niveau du logement. Et donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec mes colocataires, qui étaient d'autres volontaires. Donc, j'étais en colocation avec 4 filles, une fille qui venait d'Espagne, une qui venait d'Autriche, une qui venait de Géorgie et une qui venait d'Azerbaïdjan. Et un autre Français, qui était mon coloc de chambre. On était, c'était un petit appart avec tous deux par chambre. Et on a d'extraordinaires souvenirs à cause du Covid, en fait, parce qu'on n'aurait jamais passé autant de temps ensemble que si on avait eu ça. Et dans mon cas, ça a même eu d'autres aspects particuliers. C'est qu'en l'occurrence, avec mon coloc français, on s'est mis à travailler sur un projet ensemble. Et du coup, maintenant, on essaye de fabriquer une application et de monter notre entreprise en France. Et c'est parti de là. Et sans le Covid, on n'aurait jamais fait ça. Donc c'est... Enfin, voilà. Au début, je m'étais dit, oh, on n'a pas de peau, le Covid nous tombe dessus et tout. Pile pendant un volontariat. Et puis finalement...
Ça a changé ta vie, ce volontariat.
C'est ça, ouais, exactement. Et même sur un autre aspect aussi, puisque du coup, j'ai rencontré une fille dans le groupe de volontaires et on s'est mis ensemble. Et puis du coup, on va se marier.
Waouh.
Voilà, donc ça, j'imagine que tous les volontariats ne se passent pas de la même manière. On a tous des expériences plus ou moins différentes. Mais je peux dire que mon volontariat a pas mal changé ma vie.
L'amour est dans le volontariat.
C'est ça, je ne suis pas le seul, hein, mais j'en ai connu d'autres.
Ça peut être le thème d'une prochaine émission.
Ah, carrément, absolument. Félicitations alors. Hein.
Merci.
Et peut-être pour continuer notre cercle, Camille, comment ça s'est passé pour toi?
Alors, c'était super. Donc nous, en fait, du coup, on était venus pour animer des ateliers pour les enfants. Donc le matin, on avait les ateliers, donc on a partagé pas mal de temps donc avec les enfants, et en fait il y avait du coup des jeunes de notre âge qui étaient là pour faire la traduction, pour nous aider, Et c'est ça, c'était dans l'école pour les enfants, donc c'était chouette. Et l'après-midi, en fait, on se faisait balader à droite à gauche entre ceux qui voulaient qu'on nous montrer leur maison, ceux qui voulaient nous montrer la piscine, l'activité qu'ils avaient prévue. Enfin, voilà, c'était, en fait, on avait prévu beaucoup de choses, entre guillemets. Et en fait, ça s'est pas du tout passé. Enfin, ça c'est les activités se sont passées comme nous on l'avait prévu. Mais derrière, en fait, les après-midi, on était toujours invités à aller faire quelque chose parce qu'ils avaient envie de nous montrer telle ou telle chose. Et du coup, on s'est fait, on a eu plein de super chouettes après-midi à aller visiter la ferme de l'oncle. Enfin, plein de choses comme ça. Enfin, c'était super chouette ces après-midi. Et puis on a fait quelques jours après, on allait se balader aussi un peu plus. Donc, dans d'autres endroits de la Roumanie, où on est parti 3-4 jours pour visiter un peu le pays. Mais c'était vraiment une expérience super enrichissante.
Et Étienne, de ton côté, comment est-ce que ça s'est passé, le chantier ?
Alors, on était logés dans un super cadre, un petit peu rustique, parce qu'en fait, on dormait dans une étable à l'étage, wow. Donc sur du bois. Mais on avait des matelas quand même. Et c'était donc dans une ferme privée, avec des poules, des chèvres. Donc on a pu être initié à comment traire la chèvre. Donc c'était assez sympa, c'était une ferme bio en plus. Sinon, on travaillait, des fois on travaillait que le matin et l'après-midi on avait des activités. Et des fois on travaillait matin et après-midi et on se détendait le soir. Les activités qu'on a eues, c'est notamment un festival du vin, où on a pu goûter des vins slovaques avec modération, bien entendu. Et on a pu rencontrer les locaux, dont certains nous ont montré des danses traditionnelles et des chants traditionnels en habits traditionnels. Et on a eu aussi une sortie près d'un lac, où on s'est baigné dans le lac même. Donc c'était assez sympa et convivial. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est en Allemagne. C'est parce que, souvenez-vous, on devait rénover un château. Du coup, on habitait... dans l'enceinte du château, et un soir un couple d'Allemands ont organisé leur mariage dans ce château et ils n'ont pas eu d'autre choix que nous inviter. Du coup, on a fait le mariage du début à la fin, on a profité d'absolument toutes les festivités à l'œil et c'était absolument exceptionnel. Voilà, c'est un souvenir qui est resté bien gravé.
Décidément, il y a le thème du mariage ce soir.
C'est l'amour.
Et oui, c'est un signe.
Et toi, André, donc je ne vais pas te demander si tu t'es mariée en France, ne t'inquiète pas. Mais voilà, comment ça se passe en France, au lycée, de manière générale? Est-ce qu'il y a un meilleur souvenir jusqu'à présent que tu as?
Oui, ça marche très bien parce que tous les Français que j'ai rencontrés sont très gentils. Ils parlent avec moi. J'ai trouvé rapidement les nouveaux amis. Je sors avec mes amis et j'ai très bonne expérience. C'est grand change que je peux comparer avec la Tchéquie. J'ai le meilleur souvenir que j'étais avec ma famille d'accueil en Provence. On a fait l'escalade et avec mes amis qu'on a visité la ville où se trouve notre lycée.
Vous avez tous des souvenirs qui donnent envie. Je vous propose d'écouter, pour finir, le tout dernier conseil de Slavomir juste après ça.
3 jours de voyage, 3 jours chez vous, 3 jours de voyage, 3 jours quête du Graal, 3 jours de voyage, 3 jours chez vous.
Cette fois, Slavomir nous parle de son coup de cœur touristique.
Il y a Prague, donc qui est un peu mon coup de cœur. Enfin, c'est une ville que j'aime énormément. Déjà, architecturalement parlant, c'est magnifique. Voilà, il y a des très vieux immeubles du XIIIe siècle, avec des bâtiments Art Nouveau, début XXe. C'est très éclectique, mais voilà, tu peux passer des heures et des heures, des semaines à te balader dans les rues de Prague, et à chaque fois, tu réussis à trouver un coin qui t'impressionne. Voilà, puis il y a... beaucoup de cafés sympas, d'endroits où tu manges bien, où comme la plupart des grandes villes. Mais je trouve que Prague, elle a un charme comme peu de villes en Europe.
Alors, donc on arrive à la fin. Donc, on voulait vous demander qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que ça vous a apporté, ce voyage, cette mobilité. Par contre, on s'excuse, mais par manque de temps, on va demander à l'un d'entre vous de faire un peu cette partie conclusion. Tout le monde ne pourra pas... Donc, je ne sais pas, qui voudrait effectivement dire voilà, ce que ça lui a apporté, que ce soit sur le plan professionnel, personnel.
Ah. Je peux le faire si vous voulez, hein. Moi, ça ne me dérange pas. Ben, moi, je suis un bon exemple, ça peut apporter des choses assez... de grands chamboulements dans la vie. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais voilà, moi, je me rends compte que depuis que je connais le SVE, je n'ai entendu quasiment jamais personne savoir ce que c'était. Donc, en fait, il y a encore énormément de gens qui... quand j'en parlais autour de moi, en 10 ans, il y a une seule personne qui m'a dit « Ah oui, j'en ai fait un. » Jamais personne d'autre ne voyait ce que c'était. Donc, je me rends compte qu'il y a encore un problème à ce niveau-là de communication. Et moi, je me dis, voilà, c'est juste une expérience extraordinaire. Et même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave, parce que de toute façon, ce sera sûrement très enrichissant. Ce sera sûrement quelque chose de... Voilà, il faut juste rester ouvert à l'idée que c'est une possibilité. Et puis se dire, bon, de toute façon, on peut faire un cours pour se dire... Enfin, on peut faire quelque chose de court et se dire, je teste 2-3 semaines, ça peut déjà être génial. Et on peut aussi dire, bah tiens, allez, je pars pour 8 mois, 1 an, et puis voilà. Et moi, je me dis, quand je vois ma propre expérience, je me dis, c'est quand même quelque chose qui vaut la peine d'être fait.
Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose, un mot de conclusion ?
Alors, Charlie a recommandé le volontariat. Moi, je voudrais recommander l'Europe centrale en général, parce que oui, il peut y avoir ces clichés sur le fait que les gens sont froids. Alors moi, je ne l'ai pas du tout ressenti, mais alors vraiment pas. Bien au contraire, j'ai trouvé les gens très sympas, extrêmement curieux de rencontrer des Français. Ils peuvent poser beaucoup de questions et on peut facilement construire des amitiés avec eux. Ensuite, d'un point de vue pratico-pratique, ce sont des pays où vous allez avoir plus de pouvoir d'achat que dans d'autres pays. Donc pour les jeunes, pour les étudiants, ça peut être avantageux. Et la nourriture est bonne, voilà. On a fait une petite partie de nourriture. Donc moi, personnellement, je l'apprécie. Voilà.
Camille, peut-être en un mot, toi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ?
Eh ben, moi, j'encourage tous les jeunes qui ont envie de monter un projet, de toute façon, que ce soit en France ou à l'international, de le faire, de se motiver. Il y a plein de structures et plein de personnes qui sont là pour accompagner. Il faut juste bien se diriger parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de communication, je trouve, au niveau de toutes les possibilités qu'il y a et d'aide qu'il y a en France. Mmh. Et voilà, quand on veut, on peut le faire et ça apporte énormément. Et moi, ça m'apporte encore tous les jours aujourd'hui, même si ça fait longtemps que j'ai fait ce projet. Je sais que toutes les personnes de mon équipe, en tout cas, elles se sont construites aussi grâce à ce projet, et que ce soit professionnellement ou personnellement. Donc, je vous encourage à tous le faire.
Merci, ça s'entend et c'est très communicatif, vraiment ça donne envie tout ce que vous nous racontez. Merci beaucoup André d'avoir partagé ta culture avec nous aujourd'hui.
C'était un plaisir pour moi. Je pense que pour les Français c'est bonne idée, ale en Tchéquie, parce que oui, la Tchéquie défend le régime communiste a beaucoup changé. La Tchéquie est un très joli pays, très sympa.
Allez, on va visiter. Merci Étienne, Charlie et Camille d'avoir été avec nous.
Merci aussi à Anna Gasquet d'Europe Direct, Drôme Ardèche, Salia Djerboua du PILGE, Frédéric Dupuis de la CAF, Amélie Grimand de Roman International, Leslie Ferdin de Jeunesse et Reconstruction et Marie-Catherine Châtelier du lycée Gabriel Faure à Tournon.
C'était donc l'émission Top Départ, l'émission qui vous donne les clés pour partir à l'étranger. Et aujourd'hui en Europe de l'Est, une coproduction Europe Direct, Drôme Ardèche, Radio BLV, Valence Roman Agglo, la CAF et la DDCS Drôme.
Donc vous trouverez plus d'informations et des liens vers les structures dont nous avons parlé sur le site internet de Radio BLV et sur Info Jeunes Drôme Ardèche. On vous rappelle également que ce dimanche 9 mai, c'est la fête de l'Europe. Et donc pendant tout le mois, dans le cadre du joli mois de l'Europe, de nombreuses activités sont organisées près de chez vous, à retrouver sur nos Facebook et Twitter Europe Direct Drôme Ardèche. Et ce dimanche, c'est également le lancement de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui permettra à tous les citoyens de façonner le futur de l'Union européenne. Rendez-vous sur la plateforme numérique de participation citoyenne.
Ouf, on l'a fait en une heure pile. Le mois prochain, Europe du Nord. À bientôt.
Top Départ, le rendez-vous jeunesse en mouvement qui te donne les clés du voyage.